Alors, nous allons lire un texte dans le Nouveau Testament ce matin, 2 Timothée chapitre 3, verset 10. 2 Timothée chapitre 3, verset 10, et on va poursuivre la lecture jusqu'au chapitre 4, verset 5. Alors, excusez-moi pour ma voix un peu cassée, enrouée, on est un peu malade avec ma femme, ça revient, mais bon, vous allez quand même... J'espère bien me comprendre. Je ferai en tout cas tous mes efforts pour que ce soit le cas. Donc 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Cette lettre donc qui est adressée par l'apôtre Paul à son fidèle disciple qu'il l'a formé, qu'il continue de former en lui envoyant cette lettre. Et c'est pour cela qu'on appelle cette épître-là, cette lettre, une épître pastorale, parce qu'il donne des conseils de type pastoraux, des conseils pastoraux à Timothée pour la direction des églises. Mais ceci dit, bien sûr, ces conseils nous montrent l'intérêt que l'apôtre Paul porte à l'église d'une part et aussi à ses responsables, anciens pasteurs, pour qu'ils eux-mêmes soient vraiment appuyés sur la parole de Dieu et des fidèles serviteurs. Mais des serviteurs, nous le sommes tous, vous le savez. Nous sommes tous des fidèles serviteurs, enfin des serviteurs fidèles, nous essayons de l'être. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Et nous allons donc lire ce passage, raison pour laquelle j'ai intitulé donc ce message « Des serviteurs fidèles ». Que le Seigneur puisse, quand il reviendra, bien dire ses paroles et que nous puissions entendre résonner ses paroles dans nos cœurs entre bons et fidèles serviteurs, dans la joie de ton maître. Verset 10 donc. Pour toi, donc c'est Paul qui s'adresse à Timothée, toi c'est Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc d'abord, je voudrais dépeindre le contexte rapidement. Timothée se heurte à des faux docteurs qui séduisent, des faux enseignements, qui séduisent les chrétiens. Effectivement, quelques versets avant, versets 5 et verset 8, Paul appelle ces gens qui séduisent des chrétiens, ces hommes. Au verset 5, Paul dit de ces personnes qu'elles renient ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas en conformité avec la vérité qui est en Jésus-Christ, vérité qui a été transmise une fois pour toutes par les apôtres, Et ceci est confirmé au verset 8, donc, où Paul dit que ces hommes s'opposent à la vérité. Alors, en lisant ce texte-là, c'est pour ça que j'ai prolongé jusqu'au chapitre 4, verset 5, dans la découpe du passage, je vois, moi, je discerne trois interpellations, trois exhortations que Paul adresse à Timothée, qui sont toutes les trois introduites par une interpellation très personnelle. Vous avez vu dans ma lecture, j'ai insisté « toi ». Mais toi, ou pour toi, certains disent ou font ceci, mais toi, fais ceci, ça veut dire ça, quoi, finalement. Donc, Paul met en opposition Timothée et ces personnes-là qui, apparemment, ne vont pas dans le sens de l'Évangile. Donc, la première interpellation, elle est bien sûr au début de notre passage, verset 10. Toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Vous noterez le fait que Paul met bien en opposition lui aussi ce que ces gens enseignent qui ne sont pas dans la droite ligne de l'Évangile et ce que lui est. Le pronom possessif à la première personne revient plusieurs fois. Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. On pourrait se dire quand même, il ne se prend pas pour n'importe qui, Paul, mais on verra tout à l'heure la question de l'exemplarité qui est importante, la question d'être des modèles. Timothée, donc, doit prendre exemple. Quelqu'un qui vous dit tu connais ce que je t'ai dit, tu connais ma vision, tu connais mes idées, tu connais mon enseignement, Donc, il se met donc un exemple, un modèle. Donc, Timothée doit prendre exemple sur une personne, quelqu'un qu'il est appelé à imiter, à suivre, parce que cette personne est considérée comme un témoin fidèle de Jésus. Et cette personne, c'est Paul. Et puis, un peu plus loin, au verset 14, on retrouve la même expression, verset 14, jusqu'au chapitre 4, verset 4, donc, « Toi, Timothée, demeure dans ces choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et donc là, Paul lui demande à Timothée de demeurer fidèle à ce qu'il a reçu au sujet des Écritures. Donc il met encore en opposition, si je peux dire, ses faux enseignements et les enseignements qu'il a reçus depuis son enfance. Il doit prendre maintenant exemple, non pas sur la personne même de Paul, mais sur ce qu'il a reçu auparavant. Apparemment, donc, ses aïeux étaient dans la foi, connaissaient les Écritures. Alors, à ce moment-là, bien sûr, ils n'avaient pas la Bible, c'était la loi, l'Ancien Testament, mais ils la connaissaient. Ils la connaissaient, et depuis qu'ils s'étaient convertis, bien sûr, cette parole avait un impact par l'Évangile puissant pour lui. Et la troisième exhortation, elle vient à la fin de notre texte, au verset 5, « De nouveau, toi, sois sobre en toutes choses. » Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc la dernière exhortation, cette interpellation, reprend les deux premières pour encourager Timothée à persévérer fidèlement dans le service. Le ministère, ça veut dire service, comme tous nous avons un ministère, un service à donner. Et donc là, Paul reprend donc tout ce qu'il a dit auparavant, il lit la gerbe en quelque sorte, il lui dit ben maintenant que tu as pour modèle quelqu'un comme moi qui tu m'as vu être fidèle, maintenant que tu connais ce que tu dois faire parce que tu connais la parole de Dieu, eh bien maintenant remplis bien ton ministère, persévère. Tu as tous les outils, tu as tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Alors, on va reprendre un par un, mais je vais faire vite, rassurez-vous. Alors, tu peux revenir à la première exhortation. On fait un petit... On rembobine. Tac, tac. Voilà, la première. « Donc versets 10 à 13, « Toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, bon, etc., mes persécutions, mes souffrances. » Donc Timothée doit prendre exemple, on a compris. Le « toi » donc souligne la contraste entre Timothée et ces hommes corrompus d'entendement, ou comme dit Tite un peu plus loin, « réprouvés en ce qui concerne la foi ». Paul décrira ce type de personnes comme des gens qui ont leur intelligence et leur conscience souillées. Et ailleurs, il dira de ces personnes qu'ils n'ont plus bonne conscience et qu'ils ont fait naufrage quant à la foi. Donc ça, bien sûr, c'est l'aspect négatif, c'est le contre-exemple que Timothée ne doit pas suivre. Regardons plutôt le bon exemple. Quelle a été l'attitude de Timothée pour que Paul la mette en contraste avec ces hommes qui s'opposent à la vérité ? Timothée n'a pas fait, je voudrais préciser quelque chose, c'est que Timothée n'a pas fait que suivre des cours bibliques. Parce qu'effectivement, quand Paul dit « toi tu as vu de près mon enseignement », etc., il parle aussi, finalement, de choses très concrètes de sa vie. Il parle de sa conduite, il parle de ses résolutions, de sa foi, de sa façon aussi d'agir, de répondre aux contradicteurs, ma douceur, de l'amour, la charité, mais l'amour, charité, c'est l'amour que nous communique la grâce de Dieu, la charis, la grâce, qui nous donne la joie, le bonheur. Il parle aussi de sa constance, il parle aussi de ses persécutions et de ses souffrances. Donc, Timothée fonde aussi sa vie sur l'exemple de Paul, pas uniquement sur ce qu'il a entendu au niveau purement, j'allais dire, théologique, doctrinal, même s'il est parlé de ça dans ce texte-là, notamment au chapitre 4. Il doit aussi prendre exemple sur la persévérance de l'apôtre Paul. Timothée a été le témoin, sur une assez longue période, il faut le dire, de la façon dont Paul vivait la vie chrétienne. Il a pris exemple sur l'attitude de Paul au milieu des épreuves par lesquelles il est passé. Qu'est-ce qui peut nous faire tenir au sein de la tempête ? Ben d'abord, c'est de fonder notre vie sur sa parole, y marcher fidèlement. La juste façon d'aborder les temps difficiles, ben c'est de fonder sa vie, son service sur le roc de la parole, on est d'accord, et aussi sur des exemples de vie de gens qui ont persévéré. Timothée a suivi la persévérance de son modèle. Au sein même des épreuves, il a toujours vu Paul regarder à Jésus, persévérer, ne jamais se décourager définitivement, en tout cas, il a dû certainement passer par des moments difficiles, mais il a vu un homme qui regardait à Jésus, qui peut susciter la foi et l'amener à la perfection. Donc nous voyons ici la nécessité, le besoin vital pour grandir dans la foi, pour croître, dans la maturité spirituelle, la nécessité d'avoir des modèles. La nécessité d'avoir des modèles. Et des modèles qui sont des exemples, des gens sur qui on peut fixer nos regards. Donc des personnes qui vivent en proximité avec nous. Parce que je ne vois pas comment on peut avoir des modèles si c'est des gens qui vivent à 1000 km, alors bien sûr, on peut les écouter, ils peuvent nous conseiller, tout ça, c'est très bien. Mais en réalité, on a besoin de gens qui, parce qu'ils ont plus d'expérience que nous, parce qu'ils sont des modèles, effectivement, de persévérance, parce qu'ils ont prouvé leur fidélité, on a besoin de ces gens-là pour progresser dans la foi. Alors, c'est vrai qu'en théologie protestante, on insiste beaucoup sur la seule médiation du Christ. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc à partir de là, et on a raison d'insister sur ça, à partir de là, donc, on pense qu'on peut se, parfois, malheureusement, qu'on peut se suffire à soi-même, finalement. On a Jésus-Christ, on n'a pas besoin des saints et tout ça. Oui, sauf que, qu'on le veuille ou non, on a besoin de gens qui incarnent vraiment ce que nous croyons. Et parfois, les personnes qui disent ça, malheureusement, sans s'en rendre compte, copient inconsciemment des modèles. Sont-ils bons ou mauvais ? Ça, c'est la vraie question. Mais en attendant, nous avons besoin de modèles parce que nous sommes des êtres incarnés. Et on ne peut avoir de réels modèles et nous-mêmes être en proximité avec ces modèles que si on les côtoie régulièrement. Des personnes donc qui vivent en proximité avec nous. Et nous avons besoin de ces exemples pour suivre de près des frères et sœurs qui sont justement exemplaires. C'est-à-dire des personnes qui sont, comme je l'ai dit, plus anciens que nous dans la foi, des personnes qui se sentent aussi responsables pour les autres, afin d'être des exemples de vie chrétienne et qui n'ont pas peur, ni honte d'ailleurs, ces exemples-là, si c'est le cas, si c'est la vérité, d'être pris en défaut. Et c'est ça, avoir une vie d'exemplarité, c'est aussi des personnes qui sauront reconnaître leurs limites, leurs défauts, leurs péchés. Et c'est en ce sens-là aussi, en ce sens-là, qu'ils seront des exemples. Et ainsi, on pourra les observer et apprendre d'eux. Et moi, je dis qu'il y a vraiment, dans les milieux évangéliques, un déficit à ce niveau-là. Parce que, évidemment, c'est plus facile. Vous venez dans une église, vous êtes observateur, vous consommez, vous avez de comptes à rendre à personne, personne n'en a de comptes à vous rendre, etc., etc. Mais c'est pas ça la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est pas ça la vie chrétienne. Nous devons. Pourquoi nous disons que nous sommes frères et sœurs, membres d'un même corps ? Parce que quelque part, nous sommes responsables les uns des autres. Et effectivement, il y a des membres qui sont plus faibles, des membres qui sont plus forts. Ben soit, c'est comme ça. C'est un parcours de vie aussi, c'est des expériences. Admettons, nous ne sommes pas tous égaux concernant notre croissance et notre maturité spirituelle. Ce serait une erreur de le croire et une grande naïveté. Et l'Église donc a besoin de modèles. L'Église a besoin de personnes qu'on peut observer pour apprendre d'elles. Être exemplaire ne veut pas dire, dans le contexte que nous avons là, être parfait sans aucune faille. Mais c'est se sentir responsable de la vie spirituelle des frères et sœurs en étant soi-même un modèle de piété, de fidélité à la parole de Dieu. Ceux qui pensent pouvoir se passer de modèle sont dans l'erreur. Ils sont en réel danger. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit au chapitre 12. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors bien sûr, les personnes en question dont il est parlé dans Hébreux 12, ils sont décédés. Enfin bon, il les prend en exemple. Il cite leur vie, il cite même des détails de leur vie, des détails de leur souffrance, des détails de leur échec. Toutes ces choses-là sont nécessaires pour apprendre d'eux, apprendre aussi de leur échec, peut-être aussi. Timothée a suivi de près les souffrances de Paul, c'est le texte qui le dit. L'apôtre a gémi, l'apôtre a pleuré, il a crié à Dieu, il s'est certainement mis en colère contre Dieu, mais de suite après, il s'est mis à genoux, reconnaissant son incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu sans la grâce de Dieu. Il dit d'ailleurs dans un autre texte, « J'ai travaillé plus que tous ». Paul dit qu'il a travaillé plus que tous les apôtres, mais il précise, pour bien comprendre qu'il ne se vante pas, « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu à moi ». Dans le texte que nous avons lu, verset 11, Paul dit « Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes ?» De quelle délivrance s'agit-il ? Non pas que Paul fût exempté de telles épreuves, mais sa foi, son espérance et sa juste compréhension du conseil de Dieu lui ont permis de traverser ces épreuves avec courage et persévérance. La deuxième exhortation, la deuxième interpellation, donc c'est au verset 14, « Toi, demeure dans ces choses que tu as apprises. » Donc là, demeurez fidèle dans ce que Timothée a reçu au sujet des Écritures. Demeure, c'est-à-dire marche fidèlement. Il ne suffit pas de les avoir reçus, il faut demeurer dans ce que tu as reçu. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, comme le dit l'Ecclésiaste, et nous devons juger les gens sur la durée. Sur la durée. Il y a des gens qui commencent très fort, mais malheureusement qui finissent très mal. Nous avons des exemples dans la Bible. Salomon et bien d'autres. et bien d'autres. Plus contemporain, peut-être, malheureusement. Donc, suivre les Écritures, demeurer dans les Écritures, ça suppose une lecture suivie, une étude assidue, une mise en pratique fidèle. Paul invite son enfant spirituel, Timothée, à demeurer dans la foi, à tirer le meilleur profit des Écritures. Ces Écritures, il les connaissait déjà en partie. Il s'agissait de l'Ancien Testament que sa grand-mère et sa mère lui ont transmis depuis son plus jeune âge chez les Juifs, dès 5 ans pratiquement. Au verset 15, Paul dit, en tant que disciple du Christ, il invite donc son fidèle disciple à considérer l'Écriture comme un trésor. Trésor qui ne peut s'ouvrir qu'avec la clé que donne le Christ. Comme dit Samuel Benetro, le Christ, Jésus, le legs d'Israël doit être lu à partir de la réalisation en Christ. Le legs d'Israël, c'est-à-dire la parole de Dieu, doit être lu à partir de la réalisation en Christ. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, Jésus et lui seul, qui donne la cohérence à toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est lui qui écrase la tête du serpent, comme le dit l'auteur de la Genèse. Toute écriture est inspirée de Dieu. Là, on voit bien sûr les attributs des écritures. Elle est suffisante, elle est infaillible, elle est sûre, même si Dieu s'est accommodé à notre langage, ce qu'il dit est vrai, nous en avons l'assurance, elle est claire aussi. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est la clarté des Écritures, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Les Écritures sont saintes, elles sont utiles aussi pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre, vous noterez, propre à toute bonne œuvre. Donc il y a là réellement une application de la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Cette connaissance donc dépasse de loin la réception, une réception d'informations, une réception purement intellectuelle. La méditation des Écritures nous apporte le réconfort, elle nous encourage, elle entraîne des changements de vie, beaucoup plus qu'un simple enrichissement de connaissances bibliques, historique ou culturel. Cette capacité donc des Écritures vient de sa nature même. Elle est soufflée de Dieu. Elle vient de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Inspirée, ça veut dire ça. Elle est soufflée de Dieu. L'Écriture est soufflée de Dieu comme nos paroles le sont de notre souffle. Quatre finalités sont attachées à l'enseignement des Écritures. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, c'est-à-dire nous convaincre déjà nous-mêmes. Parce que c'est de ça dont il est question là. Nous convaincre nous-mêmes que si nous sommes sur une mauvaise voie, que nous nous faisons des illusions. Nous corriger et nous instruire. Le but final, c'est que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la réception de la parole de Dieu n'a pas pour finalité la seule satisfaction personnelle. Vous avez des théologiens qui passent leur vie à sonder les Écritures, mais qui n'y croient pas. C'est vrai, ça existe, mais qui n'y croient pas. Mais les Écritures n'ont aucun impact dans leur vie. Ils ne croient pas à la puissance manifestée dans les Écritures. Ça peut vous sembler étonnant, mais ça existe. Donc, la réception de cette parole-là, elle est aussi pour nous transformer, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions être zélés pour la cause de l'Évangile. Et en méditant cette parole, bien, Dieu forme le cœur du croyant pour qu'il puisse œuvrer concrètement dans ce monde. Elle nous rend efficaces pour agir pour le bien du prochain. Enfin, la dernière exhortation, ça sera ma conclusion, au verset 5 du chapitre 4. Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Cette dernière exhortation, donc, elle reprend les deux premières et elle encourage Timothée à persévérer fidèlement dans son service. Et nous en avons besoin d'encouragement. Nous en avons besoin. Si nous suivons les deux premières recommandations, à savoir suivre des modèles de vie chrétienne, des vrais modèles de vie chrétienne que Dieu a placés près de nous et qui sont fidèles à l'Évangile, et que deuxièmement, nous méditions chaque jour la parole de Dieu pour nous en nourrir vraiment, eh bien, nous nous maîtriserons face aux diverses tentations auxquelles nous serons exposés. Pour cela qu'il est dit, toi, sois sobre. Nous nous maîtriserons. Nous supporterons aussi les souffrances. Comme le dit la dernière exhortation, souffrances qui sont inhérentes à toute marche chrétienne. Nous vivrons aussi sans complexe la vie évangélique, c'est-à-dire que nous témoignerons par notre vie, pas simplement avec notre bouche. Nous vivrons sans complexe la vie évangélique à laquelle le Seigneur nous appelle. Enfin, nous serons fidèles dans notre service dans l'Église. C'est ce que dit Paul à Timothée, remplis bien ton ministère. Amen.